Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror, chant deuxième. Où est-il passé, ce premier chant de Maldoror, depuis que sa bouche, pleine des feuilles de la belladone, le laissa échapper à travers les royaumes de la colère dans un moment de réflexion? Où est passé ce chant? On ne le sait pas au juste. Ce ne sont pas les arbres ni les vents qui l'ont gardé. Et la morale qui passait dans cet endroit, ne présageant pas qu'elle avait dans ses pages incandescentes un défenseur énergique, l'a vu se diriger d'un pas ferme et droit vers les recoins obscurs et les fibres secrètes des consciences. Ce qui est du moins acquis à la science, c'est que depuis ce temps, l'homme à la figure de crapaud ne se reconnaît plus lui-même et tombe souvent dans des accès de fureur qui le font ressembler à une bête des bois. Ce n'est pas sa faute. Dans tous les temps, il avait cru, les paupières ployant sous les résédats de la modestie, qui n'était composé que de bien et d'une quantité minime de mal. Et brusquement, je lui apprends, en découvrant en plein jour son cœur et ses trames, qu'au contraire, il n'est composé que de mal et d'une quantité minime de bien, que les législateurs ont de la peine à ne pas laisser évaporer. Je voudrais qu'il ne ressente pas, moi qui ne lui apprends rien de nouveau, une honte éternelle pour mes amères vérités. Mais la réalisation de ce souhait ne serait pas conforme aux lois de la nature. En effet, j'arrache le masque à sa figure traîtresse et pleine de boue, et je fais tomber un à un, comme des boules d'ivoire sur un bassin d'argent, les mensonges sublimes avec lesquels il se trompe lui-même. Il est alors compréhensible qu'il n'ordonne pas au calme d'imposer les mains sur son visage, même quand la raison dispense les ténèbres de l'orgueil. C'est pourquoi le héros que je mets en scène s'est attiré une haine irréconciliable en attaquant l'humanité qui se croyait invulnérable par la brèche d'absurdes tirades philanthropiques. Elles sont entassées comme des grains de sable dans ces livres dont je suis quelquefois sur le point, quand la raison m'abandonne, d'estimer le comique si cocasse mais ennuyant. Il l'avait prévu. Il ne suffit pas de sculpter la statue de la bonté sur le fronton des parchemins que contiennent les bibliothèques. Ô être humain! Te voilà maintenant nu comme un ver en présence de mon glaive de diamant. Abandonne ta méthode. Il n'est plus temps de faire l'orgueilleux. J'élance vers toi ma prière dans l'attitude de la prosternation. Il y a quelqu'un qui observe les moindres mouvements de la coupable vie. Tu es enveloppé par les réseaux subtils de sa perspicacité acharnée. Ne te fie pas à lui quand il tourne les reins, car il te regarde. Ne te fie pas à lui quand il ferme les yeux, car il te regarde encore. Il est difficile de supposer que, touchant les ruses et la méchanceté, ta redoutable résolution soit de surpasser l'enfant de mon imagination. Ses moindres coups portent. Avec des précautions, il est possible d'apprendre à celui qui croit l'ignorer que les loups et les brigands ne se dévorent pas entre eux. Ce n'est peut-être pas leur coutume. Par conséquent, remets sans peur entre ses mains le soin de ton existence. Il la conduira d'une manière qu'il connaît. Ne crois pas à l'intention qu'il fait reluire au soleil de te corriger, car tu l'intéresses médiocrement, pour ne pas dire moins. Encore n'approchais-je pas de la vérité totale la bienveillante mesure de ma vérification. Mais c'est qu'il aime à te faire du mal, dans la légitime persuasion que tu deviennes aussi méchant que lui, et que tu l'accompagnes dans le gouffre béant de l'enfer, quand cette heure sonnera. Sa place est depuis longtemps marquée à l'endroit où l'on remarque une potence en fer, à laquelle sont suspendues des chaînes et des carcans. quand la destinée t'y portera. Le funèbre entonnoir n'aura jamais goûté de proie plus savoureuse, ni lui contemplé sa demeure plus convenable. Il me semble que je parle d'une manière intentionnellement paternelle, et que l'humanité n'a pas le droit de se plaindre. Je saisis la plume qui va construire le deuxième chant. Instrument arraché aux ailes de quelque pirargue roux. Mais qu'ont-ils donc mes doigts? Les articulations demeurent paralysées dès que je commence mon travail. Cependant, j'ai besoin d'écrire. C'est impossible. Eh bien, je répète que j'ai besoin d'écrire ma pensée. J'ai le droit, comme un autre, de me soumettre à cette loi naturelle. Mais non, la plume reste inerte. Tenez, voyez à travers les campagnes l'éclair qui brille au loin. L'orage parcourt l'espace. Il pleut toujours, comme il pleut. La foudre a éclaté, elle s'est abattue sur ma fenêtre entr'ouverte et m'a étendu sur le canapé, au bras et au front. Pauvre jeune homme, ah, ton visage était déjà assez maquillé par les rides précoces et la difformité de naissance pour ne pas avoir besoin en nous de cette longue cicatrice sulfureuse. Je viens de supposer que la blessure est guérie, ce qui n'arrivera pas de si tôt. Mais pourquoi cet orage et pourquoi la paralysie de mes doigts? Est-ce un avertissement d'en haut pour m'empêcher d'écrire et de mieux considérer ce à quoi je m'expose en distillant la bave de ma bouche carrée? Mais cet orage ne m'a pas causé la crainte. Que m'importerait une légion d'orages? Ces agents de la police céleste accomplissent avec zèle leur pénible devoir, si j'en juge sommairement par mon front blessé. Je n'ai pas à remercier le Tout-Puissant de son adresse remarquable. Il a envoyé la foudre de manière à couper précisément mon visage en deux à partir du front, endroit où la blessure a été le plus dangereuse. Pas qu'un autre le félicite. Mais les orages attaquent quelqu'un de plus fort qu'eux. Aussi donc, horrible éternel à la figure de vipère, il a fallu que, non content d'avoir placé mon âme entre les frontières de la folie et les pensées de fureur qui tuent d'une manière lente, tu aies cru, en outre, convenable à ta majesté, après un mûr examen, de faire sortir de mon front une coupe de sang. Mais enfin, qui te dit quelque chose? Tu sais que je ne t'aime pas et qu'au contraire, je te hais. Pourquoi insistes-tu? Quand ta conduite voudra-t-elle cesser de s'envelopper des apparences de la bizarrerie? Parle-moi franchement, comme à un ami. Est-ce que tu ne te doutes pas, enfin, que tu montes dans ta persécution odieuse un empressement naïf dont aucun de tes séraphins n'oserait faire ressortir le complet ridicule? Quelle colère te prend! Sache que, si tu me laissais vivre à l'abri de tes poursuites, ma reconnaissance t'appartiendrait. Alors, sultan, avec ta langue, débarrasse-moi de ce sang qui salit le parquet. Le bandage est fini. Mon front étanché a été lavé avec de l'eau salée et j'ai croisé les bandelettes à travers mon visage. Le résultat n'est pas infini. 4 chemises pleines de sang et 2 mouchoirs. Vous ne croirez pas au premier abord que Maldoror contint tant de sang dans ses artères. Car sur sa figure ne brillent que les reflets du cadavre. Ben enfin, c'est comme ça. Peut-être que c'est à peu près tout le sang que put contenir son corps. Il est probable qu'il n'y en reste pas beaucoup. Assez, assez, chien vide. Laisse le parquet tel qu'il est. tu as le ventre rempli. Faut pas continuer de boire, car tu ne tarderais pas à vomir. Tu es convenablement repu, va te coucher dans le chenil. Estime-toi à nager dans le bonheur, car tu ne penseras pas à la faim pendant 3 jours immenses, grâce aux globules que tu as descendus dans ton gosier, avec une satisfaction solennellement visible. Toi, l'aimant, prends un balai. Je voudrais aussi en prendre un, mais j'en ai pas la force. Tu comprends, n'est-ce pas, que je n'en ai pas la force? Remets tes pleurs dans leur fourreau. Sinon, je croirais que tu n'as pas le courage de contempler avec sang-froid la grande balafre occasionnée par un supplice déjà perdu pour moi dans la nuit des temps passés. Tu iras chercher à la fontaine 2 seaux d'eau. Et une fois le parquet lavé, tu mettras ses linges dans la chambre voisine. Si la blanchisseuse revient ce soir, comme elle doit le faire, tu les lui remettras. Mais comme il a plu beaucoup depuis 1 heure et qu'il continue de pleuvoir, je ne crois pas qu'elle sorte de chez elle. Alors elle viendra demain matin. Et si elle te demande d'où vient tout ce sang, ben, tu n'es pas obligé de lui répondre. Oh, que je suis faible. N'importe, j'aurai cependant la force de soulever le porte-plume et le courage de creuser ma pensée. Mais qu'a-t-il rapporté au Créateur de me tracasser comme si j'étais un enfant par un orage qui porte la foudre? Moi, je n'en persiste pas moins dans ma résolution d'écrire. Ces bandelettes m'embêtent et l'atmosphère de ma chambre respire le sang. Qu'il n'arrive pas le jour où Lohengrin et moi nous passerons dans la rue l'un à côté de l'autre sans nous regarder et en nous frôlant du coude comme 2 passants pressés. Oh, qu'on me laisse fuir à jamais loin de cette supposition. L'Éternel a créé le monde tel qu'il est. Il montrerait beaucoup de sagesse si, pendant le temps strictement nécessaire pour briser d'un coup de marteau la tête d'une femme, il oubliait sa majesté sidérale afin de nous révéler les mystères au milieu desquels notre existence étouffe comme un poisson au fond d'une barque. Mais il est grand et noble. Il l'emporte sur nous par la puissance de ses conceptions. S'il parlementait avec les hommes, toutes les hontes jailliraient jusqu'à son visage. Mais, misérable que tu es, pourquoi n'osais-tu pas? Ce n'est pas assez que l'armée des douleurs physiques et morales qui nous entoure ait été enfantée. Le secret de notre destinée en haillons ne nous est pas divulgué. Je le connais, le Tout-Puissant, et lui aussi doit me connaître. Si par hasard nous marchons sur le même sentier, sa vue perçante me voit arriver de loin, il prend un chemin de traverse afin d'éviter le triple dard de platine que la nature me donna comme une langue. Tu me feras plaisir, ô Créateur, de me laisser épancher mes sentiments. Maniant les ironies terribles d'une main ferme et froide, je t'avertis que mon cœur en contiendra suffisamment pour m'attaquer à toi jusqu'à la fin de mon existence. Je frapperai ta carcasse creuse, mais si fort que je me charge d'en faire sortir les parcelles restantes d'intelligence que tu n'as pas voulu donner à l'homme, parce que tu aurais été jaloux de te faire égal à toi, et que tu avais effrontément caché dans tes boyaux, rusé bandit, comme si tu ne savais pas qu'un jour ou l'autre les aurais découvertes de mon œil toujours ouvert, les aurais enlevées et les aurais partagées avec mes semblables. J'ai fait ainsi que je parle, et maintenant ils ne te craignent plus. Ils traitent de puissance à puissance avec toi. Donne-moi la mort pour faire repentir mon audace. Je découvre ma poitrine et j'attends avec humilité. Apparaissez donc, envergure dérisoire de châtiments éternels, déploiements en fatigue d'attributs trop vendriers. Il a manifesté la capacité d'arrêter la circulation de mon sang qui le nargue. Cependant, j'ai des preuves qui n'hésitent pas d'éteindre la fleur de l'âge, le souffle d'autres humains quand ils ont à peine goûté les jouissances de la vie. Mais c'est simplement atroce, mais seulement d'après la faiblesse de mon opinion. J'ai vu le Créateur aiguillonnant sa cruauté inutile, embraser des incendies où périssaient les vieillards et les enfants. Oh, ce n'est pas moi qui commence l'attaque, c'est lui qui me force à le faire tourner ainsi qu'une toupie avec le fouet aux cordes d'acier. N'est-ce pas lui qui me fournit des accusations contre lui-même? Ne tarira point ma verve épouvantable. Elle se nourrit des cauchemars insensés qui tourmentent mes insomnies. C'est à cause de Lohengrin que ce qui précède a été écrit. Revenons donc à lui, dans la crainte qu'il ne devint plus tard comme les autres hommes. J'avais d'abord résolu de le tuer à coups de couteau, lorsqu'il aura dépassé l'âge d'innocence. Mais je réfléchis et j'ai abandonné sagement ma résolution à temps. Il ne se doute pas que sa vie a été en péril pendant un quart d'heure. Tout était prêt et le couteau avait été acheté. Ce stylet était mignon, car j'aime la grâce et l'élégance jusque dans les appareils de la mort. Mais il était long et pointu. Une seule blessure au cou en perçant avec soin une des artères carotides, et je crois que ça aurait suffi. Je suis content de ma conduite. Me serais repenti plus tard. Donc, Lohengrin, fais ce que tu voudras, agis comme il te plaira. Enferme-moi toute ta vie dans une prison obscure avec des scorpions pour compagnons de ma captivité. Ou arrache-moi un œil jusqu'à ce qu'il tombe à terre. Je ne te ferai jamais le moindre reproche. Je suis à toi, je t'appartiens, je ne vis plus pour moi. La douleur que tu me causeras ne sera pas comparable au bonheur de savoir que celui qui me blesse de ses mains meurtrières est trempé dans une essence plus divine que celle de ses semblables. Oui, c'est encore beau de donner sa vie pour un être humain et de conserver aussi l'espérance que tous les hommes ne sont pas méchants, puisqu'il y en a eu un, enfin, qui a su attirer de force vers soi les répugnances défiantes de ma sympathie amère. Il est minuit. On ne voit pas un seul omnibus de la Bastille à la Madeleine. Ah, je me trompe. En voilà un qui apparaît subitement, comme s'il sortait de dessous terre. Les quelques passants attardés le regardent attentivement, car il paraît ne ressembler à aucun autre. Sont assis à l'impériale des hommes qui ont l'œil immobile, comme celui d'un poisson mort. Ils sont pressés les uns contre les autres et paraissent avoir perdu la vie. Au reste, le nombre réglementaire n'est pas dépassé. Lorsque le cocher donne un coup de fouet à ses chevaux, on dirait que c'est le fouet qui fait remuer son bras, et non son bras le fouet. Que doit être cet assemblage d'êtres bizarres et muets? Sont des habitants de la Lune? Il y a des moments où on serait tenté de le croire, mais ils ressemblent plutôt à des cadavres. L'omnibus, pressé d'arriver à la dernière station, dévore l'espace et fait craquer le pavé. Il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez! Mes jambes sont gonflées d'avoir marché pendant toute la journée. J'ai pas mangé depuis hier. Mes parents m'ont abandonné, je ne sais plus que faire. Je suis résolu de retourner chez moi et j'y serais vite arrivé si vous m'accordiez une place. Je suis un petit enfant de 8 ans et j'ai confiance en vous. Il s'enfuit, mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Un de ces hommes, à l'œil froid, donne un coup de coude à son voisin et paraît lui exprimer son mécontentement de ses gémissements au timbre argentin qui parviennent jusqu'à son oreille. L'autre baisse la tête d'une manière imperceptible, en forme d'acquiescement, et se replonge ensuite dans l'immobilité de son égoïsme comme une tortue dans sa carapace. Tout indique dans les traits des autres voyageurs les mêmes sentiments que ceux des deux premiers. Les cris se font entendre encore pendant 2 ou 3 minutes, puis plus perçants de seconde en seconde. L'on voit les fenêtres s'ouvrir sur le boulevard, et une figure effarée, une lumière à la main, après avoir jeté les yeux sur la chaussée, refermer le volet avec impétuosité pour ne plus reparaître. Il s'enfuit, mais une masse énorme le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Seul, un jeune homme plongé dans la rêverie au milieu de ses personnages de pierre paraît ressentir de la pitié pour le malheur. En faveur de l'enfant qui croit pouvoir l'atteindre avec ses petites jambes endolories, il n'ose pas élever la voix, car les autres hommes lui jettent des regards de mépris et d'autorité, et il sait qu'il ne peut rien faire contre tous. Le coude appuyé sur ses genoux et la tête entre ses mains, il se demande, stupéfait, si c'est là vraiment ce qu'on appelle la charité humaine. Il reconnaît alors que ce n'est qu'un vain mot, qu'on ne trouve plus même dans le dictionnaire de la poésie, et avoue avec franchise son erreur. Il se dit, bon, en effet, pourquoi s'intéresser à un petit enfant? Laissons-le de côté. Cependant, une larme brûlante a roulé sur la joue de cet adolescent qui vient de blasphémer. Il passe péniblement la main sur son front comme pour en écarter un nuage dont l'opacité obscurcit son intelligence. Il se démène, mais en vain, dans le siècle où il a été jeté. Il sent qu'il n'y est pas à sa place, et cependant il ne peut en sortir. Prison terrible, fatalité hideuse. Lombano, je suis content de toi depuis ce jour. Je ne cessais pas de t'observer pendant que ma figure respirait la même indifférence que celle des autres voyageurs. L'adolescent se lève dans un mouvement d'indignation et veut se retirer pour ne pas participer, même involontairement, à une mauvaise action. Je lui fais un signe et il se remet à mon côté. Il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Les cris cessent subitement, car l'enfant a touché du pied comme un pavé en saillie et s'est fait une blessure à la tête en tombant. L'omnibus a disparu à l'horizon et l'on ne voit plus que la rue silencieuse. Il s'enfuit. Mais une masse informe ne le poursuit pas avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Voyez ce chiffonnier qui passe, courbé sur sa lanterne pâlotte. Il y a en lui plus de cœur que dans tous ces pareils de l'omnibus. Il vient de ramasser l'enfant. Oh, soyez sûr qu'il le guérira et ne l'abandonnera pas, comme ont fait ses parents. Il s'enfuit. Mais de l'endroit où il se trouve, le regard perçant du chiffonnier le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Race stupide et idiote, tu te repentiras de te conduire ainsi. C'est moi qui te le dis. Tu t'en repentiras, va, tu t'en repentiras. Ma poésie ne consistera qu'à attaquer par tous les moyens l'homme, cette bête fauve, et le créateur qui n'aurait pas dû engendrer une pareille vermine. Les volumes s'entasseront sur les volumes jusqu'à la fin de ma vie, et cependant on n'y verra que cette seule idée, toujours présente à ma conscience. Faisant ma promenade quotidienne, chaque jour je passais dans une rue étroite. Chaque jour, une jeune fille, svelte de 10 ans, me suivait à distance, respectueusement, le long de cette rue, en me regardant avec des paupières sympathiques et curieuses. Elle était grande pour son âge et avait la taille élancée. D'abondants cheveux noirs, séparés en deux sur la tête, tombaient en tresses indépendantes sur des épaules marmoréennes. Un jour, elle me suivait comme de coutume. Les bras musculeux d'une femme du peuple la saisit par les cheveux, comme le tourbillon saisit la feuille, appliqua 2 gifles brutales sur une joue fière et muette, et ramena dans la maison cette conscience égarée. En vain, je faisais l'insouciant. Elle ne manquait jamais de me poursuivre de sa présence, devenue inopportune. Lorsque j'enjambais une autre rue pour continuer mon chemin, elle s'arrêtait, faisant un violent effort sur elle-même, au terme de cette rue étroite, immobile comme la statue du silence, et ne cessait de regarder devant elle jusqu'à ce que je disparusse. Une fois, cette jeune fille me précéda dans la rue et emboîta le pas devant moi. Si j'allais vite pour la dépasser, elle courait presque pour maintenir la distance égale. Mais si je ralentissais le pas pour qu'il y eût un intervalle de chemin assez grand entre elle et moi, alors elle le ralentissait aussi et y mettait la grâce de l'enfance. Arrivée au terme de la rue, elle se retourna lentement, de manière à me barrer le passage. Je n'eus pas le temps de m'esquiver et je me trouvais devant sa figure. Elle avait les yeux gonflés et rouges. Je voyais facilement qu'elle voulait me parler et qu'elle ne savait comment s'y prendre. Devenue subitement pâle comme un cadavre, elle me demanda « Auriez-vous la bonté de me dire quelle heure est-il ?» Je lui dis que je ne portais pas de montre et je m'éloignai rapidement. Depuis ce jour, enfant à l'imagination inquiète et précoce, tu n'as plus revu dans la rue étroite le jeune homme mystérieux qui battait péniblement de sa sandale lourde le pavé des carrefours tortueux. L'apparition de cette comète enflammée ne reluira plus, comme un triste sujet de curiosité fanatique sur la façade de ton observation déçue. Et tu penseras souvent, trop souvent, peut-être toujours, à celui qui ne paraissait pas s'inquiéter des maux ni des biens de la vie présente, et s'en allait au hasard avec une figure horriblement morte, les cheveux hérissés, la démarche chancelante, et le bras nageant aveuglément dans les eaux ironiques de l'éther, comme pour y chercher dans une proie sanglante de l'espoir, ballotté continuellement à travers les immenses régions de l'espace par le chasse-neige implacable de la fatalité. « Oh, tu ne me verras plus, et je ne te verrai plus. » Qui sait ? Peut-être que cette fille n'était pas ce qu'elle se montrait. Sous une enveloppe naïve, elle cachait peut-être une immense ruse, le poids de 18 années et le charme du vice. On a vu des vendeuses d'amour s'expatrier avec gaieté des îles britanniques et franchir le détroit. Elles rayonnaient leurs ailes en tournoyant en essaim doré devant la lumière parisienne. Et quand vous les aperceviez, vous disiez « Mais elles sont encore enfants, n'ont pas plus de 10 ou 12 ans. » En réalité, elles en avaient 20. Oh, dans cette supposition, maudits soient-ils les détours de cette rue obscure. Horrible, horrible ce qui s'y passe. Je crois que sa mère la frappa parce qu'elle ne faisait pas son métier avec assez d'adresse. Il est possible que ce ne fût qu'un enfant, et alors la mère est plus coupable encore. Moi, je ne veux pas croire à cette supposition qui n'est qu'une hypothèse, et je préfère aimer dans ce caractère romanesque une âme qui se dévoile trop tôt. Ah, vois-tu, jeune fille, je t'engage à ne plus reparaître devant mes yeux, et jamais je ne repasse dans la rue étroite. Il pourrait t'en coûter cher. Déjà le sang et la haine me montent vers la tête à flots bouillants. Moi, être assez généreux pour aimer mes semblables, non, non. Je l'ai résolu depuis le jour de ma naissance. Ils ne m'aiment pas, eux. On verra les mondes se détruire et le garnit glisser comme un cormoran sur la surface des flots avant que je touche la main infâme d'un être humain. Arrière, arrière, cette main. Jeune fille, tu n'es pas un ange et tu deviendras en somme comme les autres femmes. Non, 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 je t'en supplie, ne reparais plus devant mes sourcils froncés et louches. Dans un moment d'égarement, je pourrais te prendre les bras, les tordre comme un linge lavé dont on exprime l'eau, ou les casser avec fracas comme deux branches sèches, et te les faire ensuite manger en employant la force. Je pourrais, en prenant ta tête entre mes mains, d'un air caressant et doux, enfoncer mes doigts avides dans les lobes de ton cerveau innocent, pour en extraire, le sourire aux lèvres, une graisse efficace qui lave mes yeux, endolorie par l'insomnie éternelle de la vie. Je pourrais, cousant tes paupières avec une aiguille, te priver du spectacle de l'univers et te mettre dans l'impossibilité de trouver ton chemin. Ce n'est pas moi qui te servirai de guide. Je pourrais, soulevant ton corps vierge avec un bras de fer, te saisir par les jambes, te faire rouler autour de moi comme une fronde, concentrer mes forces en décrivant la dernière circonférence et te lancer contre la muraille. Chaque goutte de sang rejaillira sur une poitrine humaine pour effrayer les hommes et mettre devant eux l'exemple de ma méchanceté. Ils s'arracheront sans trêve des lambeaux et des lambeaux de chair, mais la goutte de sang reste ineffaçable à la même place et brillera comme un diamant. Sois tranquille. Je donnerai à une demi-douzaine de domestiques l'ordre de garder les restes vénérés de ton corps et de les préserver de la faim des chiens voraces. Sans doute, le corps est resté plaqué sur la muraille comme une poire mûre et n'est pas tombé à terre. Mais les chiens savent accomplir des bons élevés si l'on y prend garde. Cet enfant qui est assis sur un banc du jardin des Tuileries, comme il est gentil. Ses yeux hardis dardent quelque objet invisible au loin dans l'espace. Oh, il ne doit pas avoir plus de 8 ans, et cependant il ne s'amuse pas comme il serait convenable. Tout au moins il devrait rire et se promener avec quelques camarades au lieu de rester seul. Mais ce n'est pas son caractère. Cet enfant qui est assis sur un banc du jardin des Tuileries, comme il est gentil. Un homme, mu par un dessein caché, vient s'asseoir à côté de lui sur le même banc avec des allures équivoques. Qui est-ce? Oh, je n'ai pas besoin de vous le dire, car vous le connaîtrez à sa conversation tortueuse. Écoutons-les, ne les dérangeons pas. À quoi penses-tu, enfant?
Je pensais au ciel.
Il n'est pas nécessaire que tu penses au ciel. C'est déjà assez de penser à la terre. Es-tu fatigué de vivre, toi qui viens à peine de naître?
Non, mais chacun préfère le ciel à la terre.
Eh bien, pas moi. Car puisque le ciel a été fait par Dieu, ainsi que la terre, sois sûr que tu y rencontreras les mêmes maux qu'ici-bas. Après ta mort, tu ne seras pas récompensé d'après tes mérites. Car si l'on te commet des injustices sur cette terre, comme tu l'éprouveras par expérience plus tard, il n'y a pas de raison pour que dans l'autre vie, on n'en commette pas non plus. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de ne pas penser à Dieu et de te faire justice toi-même, puisque tu la refuses, on te la refuse. Si un de tes camarades t'offensait, est-ce que tu ne serais pas heureux de le tuer?
Mais c'est défendu.
Mais ce n'est pas si défendu que tu crois. Il s'agit seulement de ne pas se laisser attraper. La justice qu'apportent les lois ne vaut rien. C'est la jurisprudence de l'offensé qui compte. Si tu détestais un de tes camarades, est-ce que tu ne serais pas malheureux de songer qu'à chaque instant tu aies sa pensée devant les yeux?
Oui, c'est vrai.
Eh bien voilà donc un de tes camarades qui te rendrait malheureux toute la vie. Car voyant que ta haine n'est que passive, il ne continuera pas moins de se narguer de toi et de te causer du mal impunément. Il n'y a donc qu'un moyen de faire cesser la situation. C'est de se débarrasser de son ennemi. Voilà où je voulais en venir pour te faire comprendre sur quelle base est fondée la société actuelle. Chacun doit se faire justice lui-même, sinon il n'est qu'un imbécile. Celui qui remporte la victoire sur ses semblables, celui-là est le plus rusé et le plus fort. Est-ce que tu ne voudrais pas un jour dominer tes semblables?
Oui, oui.
Eh bien, sois donc le plus fort et le plus rusé. Tu es encore trop jeune pour être le plus fort. Mais dès aujourd'hui, tu peux employer la ruse, le plus bel instrument des hommes de génie. Lorsque le berger David atteignait au front le géant Goliath d'une pierre lancée par la fronde, est-ce qu'il n'est pas admirable de remarquer que c'est seulement par la ruse que David a vaincu son adversaire? Et que, si au contraire il s'était pris à bras-le-corps, le géant l'aurait écrasé comme une mouche. Il en est de même pour toi. À guerre ouverte, tu ne pourras jamais vaincre les hommes sur lesquels tu es désireux d'étendre ta volonté. Mais avec la ruse, tu pourras lutter seul contre tous. Tu désires les richesses, le beau palais et la gloire. Où n'as-tu trompé quand tu m'as affirmé ces nobles prétentions?
Non, non, je ne vous trompais pas, mais je voudrais acquérir ce que je désire par d'autres moyens.
Alors tu n'acquerras rien du tout. Les moyens vertueux et bonasses ne mènent à rien. Il faut mettre à l'œuvre des leviers plus énergiques et des trames plus savantes. Avant que tu deviennes célèbre par ta vertu et que tu atteignes le but, 100 autres auront le temps de faire des cabrioles par-dessus ton dos et d'arriver au bout de la carrière avant toi, de telle manière que n'y trouvera plus de place pour tes idées étroites. Il faut savoir embrasser avec plus de grandeur l'horizon du temps présent. N'as-tu jamais entendu parler, par exemple, de la gloire immense qu'apportent les victoires? Et cependant, les victoires ne se font pas seules. Il faut verser du sang, beaucoup de sang, pour les engendrer et les déposer au pied des conquérants. Sans les cadavres et les membres épars que tu aperçois dans la plaine où s'est opéré sagement le carnage, il n'y aurait pas de guerre, et sans guerre, il n'y aurait pas de victoire. Tu vois que lorsqu'on veut devenir célèbre, il faut se plonger avec grâce dans des fleuves de sang alimentés par de la chair à canon. Le but excuse le moyen. La première chose pour devenir célèbre, c'est d'avoir de l'argent. Or, comme tu n'en as pas, il faudra assassiner pour en acquérir. Mais comme tu n'es pas assez fort pour manier le poignard, fais-toi un voleur en attendant que tes membres aient grossi. Et pour qu'ils grossissent plus vite, je te conseille de faire de la gymnastique 2 fois par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. De cette manière, tu pourras essayer le crime, avec un certain succès dès l'âge de 15 ans, au lieu d'attendre jusqu'à 20. L'amour de la gloire excuse tout, et peut-être plus tard, maître de tes semblables, leur feras-tu presque autant de bien que tu leur as fait du mal au commencement. Mal dehors s'aperçoit que le sang bouillonne dans la tête de son jeune interlocuteur. Ses narines sont gonflées et ses lèvres rejettent une légère écume blanche. Il lui tâte le pouls, les pulsations sont précipitées. La fièvre a gagné ce corps délicat. Il craint les suites de ses paroles. Il s'esquive, le malheureux, contrarié de n'avoir pas pu entretenir cet enfant pendant plus longtemps. Lorsque, dans l'âge mûr, il est si difficile de maîtriser les passions, balancé entre le bien et le mal, qu'est-ce dans un esprit encore plein d'inexpérience? Et quelle somme d'énergie relative ne lui faut-il pas en plus? L'enfant sera quitte pour garder le lit 3 jours. Plus au ciel que le contact maternel amène la paix dans cette fleur sensible, fragile enveloppe d'une belle âme. Là, dans un bosquet entouré de fleurs, dont l'hermaphrodite, profondément assoupie sur le gazon, mouillée de ses pleurs, la lune a dégagé son disque de la masse des nuages et caresse avec ses pâles rayons cette douce figure d'adolescent. Ses traits expriment l'énergie la plus virile en même temps que la grâce d'une vierge céleste. Rien ne paraît naturel en lui, pas même les muscles de son corps qui se ferait un passage à travers les contours harmonieux de forme féminine. Il a le bras recourbé sur le front, l'autre main appuyée contre la poitrine, comme pour comprimer les battements d'un cœur fermé à toutes les confidences et chargé du pesant fardeau d'un secret éternel. Fatigué de la vie et honteux de marcher parmi des êtres qui ne lui ressemblent pas, le désespoir a gagné son âme, et il s'en va seul comme le mendiant de la vallée. Comment se procure-t-il les moyens d'existence? Des âmes compatissantes veillent de près sur lui, sans qu'il se doute de cette surveillance et ne l'abandonne pas. Il est si bon, il est si résigné. Volontiers, il parle quelquefois avec ceux qui ont le caractère sensible, sans leur toucher la main, et se tient à distance, dans la crainte d'un danger imaginaire. Si on lui demande pourquoi il a pris la solitude pour compagne, ses yeux se lèvent vers le ciel et retiennent avec peine une larme de reproche contre la Providence. Mais il ne répond pas à cette question imprudente, qui répand dans la neige de ses paupières la rougeur de la rose matinale. Si l'entretien se prolonge, il devient inquiet, tourne les yeux vers les 4 points de l'horizon, comme pour chercher à fuir la présence d'un ennemi invisible qui s'approche, fait de la main un adieu brusque, s'éloigne sur les ailes de sa pudeur en éveil et disparaît dans la forêt. On le prend généralement pour un fou. Un jour, 4 hommes masqués qui avaient reçu des ordres se jetèrent sur lui et le garrottèrent solidement de manière qu'il ne put remuer que les jambes. Le fouet abattit ses rudes lanières sur son dos et ils lui dirent qu'il se dirigea sans délai vers la route qui mène à Bicêtre. Il se mit à sourire en recevant les coups et leur parla avec tant de sentiment, d'intelligence, sur beaucoup de sciences humaines qu'il avait étudiées et qui montraient une grande instruction dans celui qui n'avait pas encore franchi le seuil de la jeunesse, et sur les décidés de l'humanité, où il dévoila entière la noblesse poétique de son âme, que ses gardiens épouvantés jusqu'au sang de l'action qu'ils avaient commise, délièrent ses membres brisés, se traînèrent à ses genoux en demandant un pardon qui fut accordé, et s'éloignèrent avec les marques d'une vénération qui ne s'accorde pas ordinairement aux hommes. Depuis cet événement dont on parla beaucoup, son secret fut deviné pour chacun, mais on paraît l'ignorer pour ne pas augmenter ses souffrances, et le gouvernement lui accorde une pension honorable pour lui faire oublier qu'un instant on voulut l'introduire par force sans vérification préalable dans un hospice d'aliénés. Lui, il emploie la moitié de son argent. Le reste, il le donne aux pauvres. Quand il voit un homme et une femme qui se promènent dans quelque allée de platane, il sent son corps se fendre en deux de bas en haut, et chaque partie nouvelle allait étreindre une des promeneurs. Mais ce n'est qu'une hallucination, et la raison ne tarde pas à reprendre son empire. C'est pourquoi il ne mêle sa présence ni parmi les hommes, ni parmi les femmes. Car sa pudeur excessive, qui a pris jour dans cette idée qu'il n'est qu'un monstre, l'empêche d'accorder sa sympathie brûlante à qui que ce soit. Il croirait se profaner, il croirait profaner les autres. Son orgueil lui répète cet axiome « que chacun reste dans sa nature ». Son orgueil, ai-je dit, parce qu'il craint qu'en joignant sa vie à un homme ou à une femme, on ne lui reproche tôt ou tard, comme une faute énorme, la conformation de son organisation. Alors il se retranche dans son amour-propre, offensé par cette supposition impie qui ne vient que de lui, et il persévère à rester seul au milieu des tourments et sans consolation. Là, dans un bosquet entouré de fleurs, dont l'hermaphrodite, profondément assoupi sur le gazon, mouillé de ses pleurs, les oiseaux éveillés contemplent avec ravissement cette figure mélancolique. À travers les branches des arbres, et le rossignol ne veut pas faire entendre ses cavatines de cristal. Le bois est devenu auguste comme une tombe par la présence nocturne de l'hermaphrodite infortuné. Ô voyageur égaré par ton esprit d'aventure qui t'a fait quitter ton père et ta mère dès l'âge le plus tendre, par les souffrances que la soif t'a causées dans le désert, par ta patrie que tu cherches peut-être après avoir longtemps erré, proscrit dans des contrées étrangères, par ton coursier, ton fidèle ami, qui a supporté avec toi l'exil et l'intempérie des climats que te faisait parcourir son humeur vagabonde, par la dignité que donne à l'homme les voyages sur les terres lointaines et les mers inexplorées, au milieu des glaçons polaires ou sous l'influence d'un soleil torride, ne touche pas avec ta main, comme avec un frémissement de la brise, ces boucles de cheveux répandues sur le sol et qui se mêlent à l'herbe verte. Écarte-toi de plusieurs pas et tu agiras mieux ainsi. Cette chevelure est sacrée, c'est l'hermaphrodite lui-même qui l'a voulu. Il ne veut pas que des lèvres humaines embrassent religieusement ses cheveux parfumés par le souffle de la montagne, pas plus que son front qui resplendit en cet instant comme les étoiles du firmament. Mais il vaut mieux croire que c'est une étoile elle-même qui est descendue de son orbite en traversant l'espace, sur ce front majestueux qu'elle entoure avec sa clarté de diamant, comme d'une auréole. La nuit, écartant du doigt sa tristesse, se révèle tous ses charmes pour fêter le sommeil de cette incarnation de la pudeur, de cette image parfaite de l'innocence des anges. Le bruissement des insectes est moins perceptible. Les branches penchent sur lui leur élévation touffue afin de le préserver de la rosée, et la brise, faisant résonner les cordes de sa harpe mélodieuse, envoie ses accords joyeux à travers le silence universel vers ses paupières baissées, qui croient assister immobile au concert cadencé des mondes suspendus. Il rêve qu'il est heureux, que sa nature corporelle a changé, ou que, du moins, il s'est envolé sur un nuage pourpre vers une autre sphère habitée par des êtres de même nature que lui. Hélas, que son illusion se prolonge jusqu'au réveil de l'aurore. Il rêve que les fleurs dansent autour de lui en rond, comme d'immenses guirlandes folles, et l'imprègnent de leurs parfums suaves, pendant qu'il chante un hymne d'amour entre les bras d'un être humain, d'une beauté magique. Mais ce n'est qu'une vapeur crépusculaire que ses bras entrelacent. Et quand il se réveillera, ses bras ne l'entrelaceront plus. Ne te réveille pas, Hermaphrodite. Ne te réveille pas encore, je t'en supplie. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Dors, dors toujours. Que ta poitrine se soulève en poursuivant le noir chimérique du bonheur, je te le permets. Mais n'ouvre pas les yeux. Oh, n'ouvre pas tes yeux. Je veux te quitter ainsi pour ne pas être témoin de ton réveil. Peut-être un jour, à l'aide d'un livre volumineux, dans des pages émues, raconterai-je ton histoire, épouvanté de ce qu'elle contient et des enseignements qui s'en dégagent. Jusqu'ici, je ne l'ai pas cru, car chaque fois que je l'ai voulu, d'abondantes larmes tombaient sur le papier et mes doigts tremblaient sans que ce fût de vieillesse. Mais je veux avoir à la fin ce courage. Je suis indigné de n'avoir pas plus de nerfs qu'une femme et de m'évanouir comme une petite fille chaque fois que je réfléchis à ta grande misère. Dors, dors toujours, mais n'ouvre pas tes yeux. Oh, n'ouvre pas tes yeux. Adieu, Hermaphrodite. Chaque jour, je manquerai pas de prier le ciel pour toi. Oh, si c'était pour moi, je ne le prierais point. Que la paix soit dans ton sein.